Je sais pas si vous avez regardé, mais moi, comme j'aime bien le football, cette semaine, si vous avez regardé les infos, ils ont même parlé dans les infos que Naples a été champion. C'était une grande fête. Toute la ville ont fait un feu d'artifice. C'était pas rien qu'un endroit, c'était toute la ville de Naples. Et on voyait ces gens qui témoignaient. Ça fait 33 ans qu'on attend ce jour. Et certains disaient, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est quelque chose de beau. Et je pensais à ma vie, à moi. Est-ce que ça fait une vie de moi d'un feu d'artifice de savoir que je suis sauvé? Et que ça fait 30 ans que je suis chrétien, que j'attends ce retour du Christ. En tant que supporter, bien sûr, on a toujours un petit club qu'on aime, on préfère. J'aime bien, moi, la Youf. Et ça fait 33 ou 30 qui sont champions, 30, 35 fois, je crois. C'est une question d'habitude. On ne fait pas la fête comme les Napolitains. Et je pensais à ça dans ma vie. On est tellement habitué à savoir qu'on est sauvé, qu'on ne fait plus la fête. Et pourtant, tous les dimanches, il doit y avoir un feu d'artifice ici à Jumet. Dans toutes les villes, il doit y avoir ce feu d'artifice. Les voisins doivent respecter d'entendre ce feu d'artifice. Voilà, c'était une parenthèse pour nous mettre un peu dans la joie. Alors ce matin, on va s'arrêter sur deux questions. Comment, la première question, comment on rentre dans le royaume de Dieu? Comment on rentre dans la maison de Dieu? Et la deuxième question, quand vient le découragement, comment on réagit? Quand vient le découragement, comment on réagit? Alors cette première question, comment on entre dans le royaume de Dieu? Voilà qu'il y a une personne qui vient vers vous et vous dit, pourquoi Dieu te ferait rentrer dans son royaume ou dans sa maison? Qu'est-ce qu'on va répondre? Certainement, on va répondre, tu sais, je viens tous les dimanches à l'église. Tu sais, je suis baptisé. Tu sais que mes parents sont chrétiens. Tu sais que j'ai tel et tel ministère dans l'église. Tu sais, je fais telle et telle chose pour le Seigneur. Je parlais avec une personne âgée qui me disait, elle était sincère, elle me dit, je suis une femme qui essaye d'être honnête avec tout le monde. Être honnête avec tout le monde. J'essaye de faire des bonnes et des bonnes actions. Alors, le chrétien doit connaître comment on entre dans le royaume des cieux, dans la maison de Dieu. Et ce matin, je voudrais lire avec vous deux passages. Le premier se trouve dans Nombre. La semaine dernière, Benoît a parlé de Josué. C'est juste quelques chapitres avant. Nombre chapitre 21. On va lire les versets 4 à 9. Et puis, on va lire Jean, qu'on connaît tous. Jean 3 et les versets 14 à 15. Mais premièrement, on va lire Nombre chapitre 21, les versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le pays s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi Nous, avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre Dieu. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Deuxième lecture, dans Jean, au chapitre 3, et nous lirons les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà pour ce matin. Alors je vais commencer par ces deux versets de Jean. Jésus est en train de parler à un homme que tout le monde connaît, c'est Nicodème. Et il est dit que Nicodème était un chef des Juifs, c'est-à-dire qu'il fait partie du Sanhédrin. C'est ceux qui prennent les décisions concernant la religion de cette époque-là. Et le Sanhédrin a été créé à l'époque de Moïse. Moïse doit choisir 70 anciens qui viennent assister Moïse. C'est dans Nombre, chapitre 11, versets 6 et 7. Il est dit aussi que Nicodème est un docteur d'Israël, qui veut dire un enseignant, un maître. Alors, Nicodème vient vers Jésus. Voilà qu'il y a deux maîtres qui se rencontrent. Un maître de chair et un maître spirituel. Ce maître de chair, c'est Nicodème. Et ce Nicodème ne sait pas comment on entre dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es docteur de la loi d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Je sais pas, mais c'est un peu bizarre. Voilà qu'un prof de maths vient vers vous et vous pose une question de maths. C'est drôle, non? Il doit savoir en tant que professeur. Ou un professeur de sciences ou de français vient vous voir. Moi, en tant que... j'aime bien le sport. Voilà que le meilleur entraîneur vient me voir, Ancelotti ou quelqu'un d'autre, et il me téléphone et me dit, Gino, à ton avis, ce soir, je joue. Est-ce qu'il faut jouer en 5-3-2 ou en 4-4-2? Je dirais, mais c'est toi le meilleur entraîneur, c'est pas moi. Voilà un peu l'histoire de Nicodème. Il est docteur d'Israël et il ne sait pas comment on entre dans le royaume de Dieu. Pourtant, c'est important. C'est très important. Alors Jésus va lui rappeler quelque chose de réel. C'est à l'époque de Moïse. Et en tant que Sanhédrin, Nicodème doit savoir ces choses. Et il lui dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors là, il faut retourner dans Nombre pour comprendre. Nicodème et savait tout ça dans sa tête. Alors, juste avant qu'on entame les versets qu'on a lus, il est bon de rappeler que le peuple de Dieu est sorti du pays d'Égypte. Et ils vont passer dans le désert 40 ans. Et voilà qu'ils sont maintenant dans l'année où cette terre promise, ils vont l'obtenir. C'est la 40e année. Une terre promise. Une terre promise déjà à l'époque d'Abraham. Ça date, il y a des années, dans Genèse 12, verset 7. Une terre promise. Pourquoi il a fallu tout ce temps pour avoir cette terre promise? Je pense, peut-être que je me trompe. Je pense que Dieu ne l'a pas donné tout de suite parce que dans cette terre, il y avait des hommes et des femmes qui sont sympas, gentils, qu'ils font des bonnes choses. Dieu peut pas retirer une terre à quelqu'un qui fait du bien. Mais après tant d'années qui ont passé, ce sont plus les mêmes personnes. Ce sont des personnes horribles. Ils sacrifiaient des personnes dans ce pays. Je sais pas si on réalise ce qu'ils font. C'est quelque chose d'horreur. Ils avaient énormément d'idoles, et idoles dans le sexe également. Il y avait des cris dans ce pays. Et Dieu va intervenir à travers de son peuple. Dieu a un plan, il a une promesse et il est patient. C'est comme aujourd'hui. Dieu dit qu'il reviendra, il est patient, il y a une promesse qu'il reviendra et il va intervenir par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sûr, il le dit qu'il reviendra. Et c'est la même chose, c'est la même histoire. Dieu va intervenir contre ce peuple, à travers de son peuple. Voilà que le peuple de Dieu arrive à cette terre promise. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un gros problème sur la route. Ils peuvent pas aller tout droit. Ils doivent contourner le pays d'Édom. Ils peuvent pas aller tout droit. Même s'ils insistent, ils vont perdre. Tu dois contourner. Je sais pas si ça vous arrive. Vous êtes au travail. Vous passez une longue journée de travail, de douleur, de travail. Vous reprenez la voiture pour repartir. Vous êtes en route et voilà qu'il y a un panneau déviation. Mais cette déviation te fait perdre une heure. Je sais pas, votre réaction dans la voiture, certainement qu'on râle. On se dit pourquoi cette déviation? Et ce peuple se lamente, mais pas n'importe comment. Ils gémissent, qui veut dire avec des cris. Mais Seigneur, ça fait une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu nous dis qu'on aura cette terre promise. Et ça fait 40 ans et encore on doit traverser, mais tu veux pas nous faire traverser de ce pays où on doit faire ce contour. Que certains disent, on va mourir dans ce désert. Pourquoi tu nous fais sortir, tu nous as fait sortir d'Égypte? Ce qui est plus grave dans ce texte, ce qu'ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et ils moururent beaucoup de gens. Quel jugement! Certainement, vous allez dire au fond de votre cœur, Mais Dieu, il est méchant. Quel jugement qu'il est en train de faire. Un jour, ça va se passer encore, ce grand jugement. Ce peuple a eu de la nourriture, jour après jour. La nourriture qui venait du ciel. C'est pas qu'ils ont travaillé la terre pour avoir à manger. Elle venait du ciel. Moi, je la voudrais bien, cette nourriture, pour pas aller travailler demain. Non, demain, je suis en 4-5e. Ils sont dégoûtés. C'est vrai que ils disent que ça fait 40 ans qu'ils mangent la même nourriture. Mais c'est pas n'importe quelle nourriture. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on était à table en train de manger, ma femme et mes enfants. Et voilà que Myriam me prépare les tartines pour aller travailler. Elle fait ça avec amour. Et là, je ne sais plus c'est lequel des enfants me dit, dit à sa maman, on en a marre toujours des baguettes, des sandwichs pour aller travailler, pour aller à l'école. Alors je leur dis à tous les deux, moi ça fait 33 ans que je mange des tartines au fromage. Ils m'ont regardé tous les deux et ils m'ont dit, mais comment tu fais? Ça fait 40 ans qu'ils mangent la même nourriture, mais c'est une nourriture qui vient du ciel. Ils ont oublié ce peuple qui était un peuple dans la souffrance. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves dans un pays d'Égypte. Esclaves par des païens. Et ces païens ont abusé sur ce peuple. Ils les ont maltraités et ils les ont fait mourir dans le travail. Dieu les a fait sortir pour leur donner un pays qui était promis bien à l'avance. C'est un Dieu qui guide ce peuple dans une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Il leur manquait de rien du tout, ce peuple. Dieu les protégeait, les aidait pour aller dans ce pays promis. Et l'apôtre Paul parle de cette histoire. C'est dans 1 Corinthiens, on va lire ces 5 versets. Ils sont tellement beaux. 1 Corinthiens au chapitre 10, les versets 1 à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Voilà ces quelques versets de l'apôtre Paul enseigne l'église de Corinthe. Dieu a tout fait pour eux. Tout. Et voilà qu'ils se lamentent. Mais il y a des gémissements contre Dieu. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, de ce pain qui venait du ciel. En quelque sorte, ils rejettent ce que Dieu donne. Qu'est-ce qu'il donne? Mais il rejette la grâce de Dieu. Il rejette la justice de Dieu. Il rejette l'amour de Dieu. Il rejette la paix de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, dans le verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, qui est né de l'esprit est esprit. La plupart de ce peuple était de la chair. Ils sont descendants d'Abraham. Ils sont descendants de la chair d'Abraham. Mais ils sont pas nés de nouveau. Ils sont pas nés d'esprit. Il faut savoir que dans cette traversée, ils étaient plus ou moins 1 500 000 à 2 millions. Et Dieu a pris soin de ces 2 millions de personnes. Il les a nourris et bénis, il les a gardés et protégés. Je ne sais pas combien de milliards nous sommes sur la terre, j'ai oublié de regarder. 10 milliards ? 8. Est-ce que Dieu ne bénit pas les 10 milliards, les 8 milliards que nous sommes? Moi, je le crois. Dieu les bénit, Dieu nourrit. C'est vrai, quand j'entends, quand je parle avec mes collègues, mais c'est moi qui travaille. C'est vrai, c'est toi qui travailles. Mais c'est Dieu qui te donne la force. Dieu bénit. Dieu les protège, les nourrit ce peuple. Et la plupart ne veulent pas de Dieu. Ça me fait penser dans Jean chapitre 6, le verset 66, je crois, que les disciples, pas les 12 disciples, les autres disciples ont dit, stop avec le Seigneur, c'est trop dur. Quand l'apôtre Paul dit qu'ils périrent dans le désert, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts dans le désert. Ça veut dire qu'ils ont été éparpillés dans le désert. Ils ont pris des autres chemins. Mais c'est la mort. C'est la mort. Alors, les serpents mordirent les personnes. Quelle douleur. Quelle douleur par ce venin. Moi, j'ai été voir sur le web, il paraît que chaque année, il y a 100 000 personnes, plus ou moins, qui se font mortes par des serpents. Et c'est une douleur atroce, horrible. Il paraît que quand tu te fais morte, tu perds la vue, tu vois flou. Des douleurs à la tête, mal de tête. T'as une soif en toi. Tu as des difficultés à respirer, des faiblesses, des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Pour un dimanche matin, entendre tout ça. Transpiration. Et puis c'est la mort. Certains, c'est une mort rapide. C'est pourquoi le peuple vient vers Moïse et dit, nous avons péché contre toi. Contre l'Éternel et contre toi. Voilà la vraie confession du peuple. Ils reconnaissent qu'ils ont péché devant Dieu. Et Dieu dit à Moïse de faire un serpent d'airain et le placer sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. C'est un peu bizarre cette histoire. Un serpent qui tue, un serpent qui sauve. Vous trouvez pas? Mais c'est Jésus-Christ qui est représenté. Jésus élevé à la croix. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21, juste une petite partie, il l'a fait devenir péché pour nous. Le péché, c'est la mort. Et Jésus est sur cette croix pour mourir pour chacun de nous. Mais en même temps, sur la croix, il sauve l'humanité, tous ceux qui croient en lui. Cette croix, c'est la mort. Cette croix sauve. Il faut regarder à Jésus. Il ne faut pas regarder l'Église, il ne faut pas regarder nos œuvres, il ne faut pas regarder l'ancien, le pasteur. Tout cela ne nous sauve pas. Il faut regarder le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve. Nicodème doit regarder à Jésus. Nicodème, tu as été mordu par le serpent. Ainsi que toutes les personnes sur cette terre ont été mordues par le serpent. C'est pourquoi Jésus lui dit à Nicodème, « Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Croire, c'est reconnaître son péché. Comme ce peuple, nous avons péché. Et lui confesser, nous avons péché. Et Dieu nous donne sa grâce. Entre dans le royaume de Dieu. Entre dans le royaume de Dieu. Alors mes frères et sœurs, est-ce que ce peuple, qui était plus ou moins 1 million à 2 millions, ont tous regardé le serpent d'airain? Certainement que certains ont regardé et ont été guéris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir leurs amis, leurs frères, leurs sœurs et dire « Viens, viens, Moïse a fait un serpent d'airain, tu regardes, tu vas être guéri. » Allez, retire-toi, je ne crois pas à ça. Certains ont été voir leurs frères, leurs sœurs et disent « Viens, viens. Tu peux être guéri. » Non, je suis qu'un seul pauvre pécheur. J'ai péché contre Dieu. Laisse-moi mourir. J'ai pas besoin d'aller voir. Certains ont été voir leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins et dit, viens voir le serpent. Tu vas être guéri. Retire-toi. Mon fils vient de mourir. À cause du serpent, et tu me dis, viens voir le serpent? Je n'y crois plus à tout cela. Va-t'en. Ou certains viennent et ils rigolent. Regarde un serpent qui peut nous guérir. Il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines d'ici, j'ai été à une réunion à l'usine avec 2 chefs. Un ingénieur et le chef de sécurité. C'était sur cette réunion sur l'environnement. Et voilà qu'il commence à parler. Et à un moment donné, je dis, ben non, c'est pas bon de faire ça, il faut faire telle et telle chose. Et un des chefs, il me dit, ben non, Gino, on va pas faire ça comme ça. Moi, comme je suis pas chef, je me soumets, je dis, ok. Et après cette réunion, il est venu me trouver, le chef, il m'a dit, ben tu sais, Gino, je préfère qu'on laisse les affaires comme ça, parce que dans mon équipe, l'un qui a mal à la tête, l'autre il a mal à son genou, l'autre il a mal à son poignet, l'autre il a mal à sa cheville. Si on commence à bouger, ça va faire pire. Alors, il me dit, vendredi, je vais louer un car, et on va aller tous à Lourdes. Alors je lui dis, attends, tant que tu loues un car, prends toute l'usine, parce qu'on est tous malade. On est tous pécheurs. Est-ce que c'est l'endroit qui nous sauve? Non. Là où on nous sauve, c'est de regarder à Jésus. Comme ce verset que Eric a pris. Regardez. Regardez à la croix. Regardez à Jésus. Comment on entre dans le royaume de Dieu? Mais c'était la première question. C'est de regarder à Jésus. Tu peux être docteur de la loi. Tu peux être le meilleur dans l'église. Tu peux être diacre, pasteur. Ça ne fait pas de toi un sauvé. Tu rentres dans le royaume parce que Dieu te le donne en regardant la croix. Alors le chrétien doit savoir comment on entre dans le royaume de Dieu. On regarde à Jésus. Alors la deuxième question, je termine. Quand vient le découragement, comment tu réagis. Peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans ou 40 ans que tu vis dans le désert. Vous savez, dans Nombre, ce livre, plus ou moins 48 fois, c'est marqué dans le désert ou le désert. Désigne vraiment que c'était une terre stérile, où la végétation était rare en raison de peu de précipitations. Nous sommes sur une terre stérile, mes frères et sœurs, et on peut vite se décourager, mais avec des gémissements également, jusqu'à gémir contre Dieu et dire, Seigneur, on ne veut plus rien. Quand vient le découragement, on doit regarder également vers la croix, vers Jésus. C'est lui qui nous nourrit spirituellement. C'est lui qui nous donne cette eau spirituellement. Jésus est suffisamment. Jésus est suffisamment. C'est vrai que parfois, on doit prendre des routes qui contournent et qui nous font du mal. Mais au juste, c'est pour notre bien. Pour notre bien, comme ce peuple. Il est celui qui nous garde, qui nous bénit, qui nous protège. Il nous demande, regarde, regarde vers moi. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Comment on entre? En regardant à Jésus. Quand le découragement arrive, comment on fait? On doit regarder à Jésus. Il est le seul qui peut nous aider à traverser ces moments de tempête dans notre vie. Amen.